Jean-François Louette, on a dit tout à l'heure que le texte de Sartre, où il devenait livre, texte magistral, est un texte prémonitoire. Ressusciter mon absence, mes bienfaits la rongent et l'oblige sans cesse à l'humanité à ressusciter mon absence, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Sartre est devenu 25 tomes, 18 000 pages de texte, 300 gravures. Il sent la colle et le champignon, il pèse 60 kilos de papier. C'est aujourd'hui que Sartre est devenu un grand fétiche maniable et terrible. Est-ce qu'au fond, le rêve d'enfant de Sartre n'est pas le pressentiment de ce qu'il attendait après la mort ? Et plus exactement, le rêve reconstruit par un écrivain vieillissant qui écrit là son dernier roman. Est-ce que ce rêve-là n'est pas le pressentiment de ce qu'il est en train de devenir ?
Oui, bien sûr, et on a plaisir à voir un troisième volume de la Pléiade. Sartre aurait eu plaisir à le voir, à se voir comme ça en cuir. Mais en même temps,
est-ce qu'il aurait du plaisir à se voir en cuir ?
Oh oui, je crois quand même, bien sûr, il aurait peut-être pas dit, avoué et reconnu, mais je crois qu'il aurait eu du plaisir. En revanche, ce qui me frappe aussi, c'est que quelque chose nous est conservé par le texte des mots. Qui est le rythme de l'enfance. Il y a une telle alacrité, il y a un tel élan dans ce livre que c'est Claude Burgelin qui disait ça avec beaucoup de justesse, que finalement le livre nous transmet aussi tout simplement l'énergie bondissante, jaillissante de l'enfance. Ce que disait le père de Sartre tout à l'heure, qu'on entendait, cette espèce de curiosité et d'énergie qu'il repérait déjà un peu magiquement chez un petit enfant de 5 mois, et bien voilà, le style, c'est cet instrument magique qui transmet dans les mots, malgré le sérieux du livre, son intelligence, malgré aussi son ironie parfois acide, c'est ce qui transmet ce bondissement de l'enfant.
Vous avez cité Claude Burgelin, je renvoie au commentaire qu'il propose des mots de Sartre dans la collection Foliothèque, donc en folio. Néanmoins, Jean-François Louette, Sartre devenu livre, Sartre commémoré, Sartre encensé, Sartre enterré comme un pape, recevant les funérailles d'un pape, est-ce qu'au fond, les turiféraires de Sartre n'ont pas manqué la leçon essentielle de Sartre ? Je ne dis pas qu'il n'eût pas aimé lui-même conquérir sa postérité, précisément, et contempler tel garçon depuis les enfers, la façon dont on lui rend hommage après lui-même, mais est-ce véritablement sartrien de contribuer justement à préserver la mémoire de Sartre et à conjurer le mouvement qui est celui, le mouvement même de la vie.
Non, c'est peut-être pas en effet sartrien. C'est peut-être pas sartrien de s'opposer à ce mouvement que Deleuze voyait chez Sartre, à savoir un courant d'air.
Un courant d'air. Hein. Je renvoie à L'île déserte et autres textes. On a le texte de Deleuze sur Sartre dans ce recueil de David Lapoujade. Allez-y.
Non, en un sens, bien sûr, ce n'est pas sartrien. Bien sûr, nous contribuons à une espèce d'opération de figement. Mais il faut.
Genet a dit à Sartre, mais est statufié.
Oui, mais il faut être dialectique. C'est-à-dire que chaque lecteur, après, fera des textes ce qu'il voudra, et je crois que même s'il y a quelque chose d'un peu monumental dans une entre guillemets pléiadisation, c'est aussi tout simplement le moyen de donner accès à des textes qui eux sont toujours des courants d'air, notamment les mots.
Alors, quelque chose de pléiadique et de monumental, Sartre lui-même était l'auteur de Pavé. Hein. L'être et le néant, donc, pèsent 1 kilo, hein. Jean Paulhan le disait lui-même, ça permettait de peser les légumes, etc. L'être et le néant est un pavé, Saint-Genet aussi, la critique de la raison dialectique. Et
l'idiot de la famille, bien sûr.
Mais voilà, le pavé des pavés, l'idiot de la famille, le triple pavé, inachevé, qui plus est, qui est l'idiot de la famille. Par quelle bizarrerie Sartre, alors qu'il distribue la cause du peuple, décide d'écrire un tel texte sur Flaubert, par là même de revenir de nouveau à une bourgeoisie dont on ne sait pas s'il l'abjure ou si elle le fascine. À travers le personnage de Flaubert, un livre écrit tout entier sous le signe de la lutte contre, disait Sartre, ce qu'il peut y avoir d'inculqué en soi. On va entendre Sartre lui-même revenir sur Flaubert, ce frère ennemi, comme il dit.
Il y a 10 ans maintenant que je le fréquente, et j'ai bien changé. Ça n'est plus du tout l'ennemi type, c'est un peu un frère ennemi, si vous voulez. C'est un homme qui donne l'impression de ne pas être un intellectuel. Parce qu'il n'a pas été engagé. Mais qui a de l'intellectuel ceci, c'est qu'il a souffert de ses contradictions, plus que personne. Précisément parce qu'il ne pouvait pas en sortir. Et qu'en tant que tel, il mérite très profondément notre qualification, cette qualification. Alors, vous voyez, Alors vous me demandez si c'est une suite. Ben, je me le demande de temps en temps aussi. Parce que, probablement, on part une suite que d'aller se réfugier là, c'est-à-dire d'éviter le lourd poids des réalités et non seulement l'évolution générale du monde dans laquelle on est pris, qui n'est pas très encourageante, mais encore des tas de déceptions particulières dans des luttes politiques. Bref, il y a une tentation. Mais je dois vous dire que c'est ça qui constitue aussi l'intellectuel et sa contradiction, c'est qu'il a envie de ne pas être intellectuel. Ce n'est pas agréable d'être intellectuel. Le pied entre deux chaises a médité sur ses propres contradictions et sur les contradictions du monde. Autrement dit, il s'agirait, dans le cas de mon travail sur Flaubert, d'éviter l'anecdote, d'éviter de me complaire dans la restitution de l'anecdote et d'essayer plutôt de chercher l'application des méthodes, parce que ça nous remet sur le terrain du monde contemporain et des recherches contemporaines.
Flaubert est le modèle de celui qui a fui dans la littérature, qui a fui dans la littérature et qui, fuyant dans la littérature, restitue la réalité avec plus de nudité, de crudité que toute personne qui aurait justement passé sa vie dans le quotidien et à s'occuper des autres. Qu'est-ce que Sartre retient de Flaubert? Quel est le geste qu'il retient de Flaubert? Est-ce le geste de faire sécession ou est-ce au contraire le geste, par la grâce du style, de restituer le monde dans sa crudité, Jean-François Louette?
Il me semble qu'il retient deux choses de Flaubert. La première, c'est ce vœu être la matière, hein, qui est celui de Saint-Antoine dans la Tentation de Saint-Antoine. Et ce vœu d'être la matière, donc, il correspond à ce caractère concret de la littérature, à ce caractère anti-intellectualiste de la littérature. Alors, bien sûr, ça fascine Sartre, parce qu'il faut bien le dire, c'est quelque chose qui est réapparu déjà chez Sartre, et notamment dans La Nausée. Hein, le vœu d'être la matière, il me semble que ça fait partie de l'expérience de Roquentin. Et puis, l'autre aspect, alors qui n'est pas...
Il veut être matière comme il veut n'être plus que du vent.
Exactement, les deux.
Les deux, hein, l'un et l'autre, ouais. Comme il voulait être Spinoza et Stendhal.
Exactement. Et n'être plus que du vent, ça correspond à l'autre aspect, c'est-à-dire qui fascine Sartre chez Flaubert, c'est la méditation sur la bêtise et la volonté de s'arracher à la bêtise. Il me semble qu'on peut lire l'idiot de la famille, excusez-moi, comme une espèce de longue méditation sur la bêtise et ce que Flaubert a fait pour résister à la bêtise. Et quand on résiste pleinement à la bêtise, alors on s'approche de le ne plus être que du vent.
C'est une bêtise dont Flaubert disait qu'elle le dévorait. Plus il résistait contre elle, plus elle le dévorait. La bêtise de Bouvard et Pécuchet le dévorait. D'ailleurs, ça l'a tué. Flaubert a été rongé par la bêtise à laquelle il voulait échapper. Est-ce que Flaubert et Sartre n'ont pas en commun, non pas d'être tous les deux des imbéciles, au contraire, bien sûr, mais est-ce qu'ils n'ont pas en commun de tomber dans ce à quoi ils veulent échapper?
Oui, on peut
dire... L'un devenir une statue du commandeur, c'est Sartre, et l'autre devenir une sorte de Bouvard et Pécuchet.
Oui, enfin, il faut quand même faire sa part de l'ironie. Flaubert n'est pas aussi bête que Bouvard et Pécuchet dans Bouvard et Pécuchet, quand même.
On aurait un livre de Bouvard et Pécuchet sur Flaubert.
Ça serait l'inverse, exactement. Donc, rassurons-nous, il y a cette distance et cette circulation, précisément, d'air et de vent que permet l'ironie. D'autre part, pour moi, Sartre n'est pas une statue du commandeur. C'est pas parce qu'il entre dans la bibliothèque de la Pléiade, il y est déjà depuis 1981, hein, qu'on n'a pas toujours le droit, mais la possibilité de lire ses textes, comme il le disait lui-même, comme une émeute, comme une famine.
Comme une émeute, comme une famine. Où a-t-il dit ça?
Ben, il dit ça dans Écrire pour son époque, hein, que la littérature qui compte, c'est celle qu'on peut lire comme recevoir, comme une émeute, comme une famine.
Jean-François Louette, on s'approche du terme de cette émission. Dans les mots, il y a un passage sur le progrès, un passage absolument, alors là, d'une ironie mordante, sur le progrès, où on trouve là un Sartre qui, peut-être, alors qu'il est, encore une fois, hein, dans les années de plomb, il oscille entre le communisme et le gauchisme, s'en prend au progrès. S'en prend au progrès, dit-il, en le décrivant dans sa perception d'enfant, il décrit le progrès comme un long chemin qui mène jusqu'à moi. Tel est le regard de l'enfant sur le progrès et qu'en somme de l'enfant qui prend ses désirs pour des réalités. Est-ce que il n'y a pas là chez Sartre une critique de ce que les Sartriens, et Sartre lui-même d'ailleurs, ont pu faire, c'est-à-dire verser dans l'idolâtrie de l'histoire?
L'idolâtrie de l'histoire, c'est en effet la tentation des années 50, c'est évident. C'est une tentation...
Homme à qui on reproche l'idolâtrie de l'histoire, qui écrit « Le progrès, ce long chemin qui mène jusqu'à moi », donne le sentiment de se moquer de lui-même.
Mais je crois qu'il le fait, et c'est l'une des manières qu'il a de penser contre lui-même, comme il le dit d'ailleurs dans les mots. Il y a toujours chez Sartre une espèce d'anti-Sartre. Par moment, Sartre, avec cette page-là en particulier, est très près de Baudelaire. Baudelaire, contempteur du progrès...
Anti-moderne.
Anti-moderne, oui. Anti-moderne. Bon, en même temps, il y a la fin des mots. Il y a des tâches à faire. Et donc, s'il y a des tâches à faire, ça veut dire que même en étant désenchanté, on garde quelque part peut-être l'idée que ces tâches doivent servir un petit mieux. Je crois qu'on a beaucoup renoncé à cette idée du progrès, on l'a beaucoup critiqué. Jean-François Lyotard en a fait une espèce de grand récit qui n'a plus cours, qui est dévalué. Sauf que si on n'a pas ça, eh bien, on tombe peut-être dans la tristesse européenne.
Vous avez parlé de la fin des mots, on va entendre la fin des mots puisqu'on arrive à la fin de l'émission qui leur est consacrée. On va entendre la fin des mots et Sartre lui-même d'ailleurs commenter la fin des mots.
Ce que j'aime en ma folie, c'est qu'elle m'a protégé, du premier jour, contre les séductions de l'élite. Jamais je ne me suis cru l'heureux propriétaire d'un talent. Ma seule affaire était de me sauver, rien dans les mains, rien dans les poches, par le travail et la foi. Du coup, ma pure option ne m'élevait au-dessus de personne. Sans équipement, sans outillage, je me suis mis tout entier à l'œuvre pour me sauver tout entier. Si je range l'impossible salut au magasin des accessoires, que reste-t-il? Tout un homme, fait de tous les hommes, et qui les vaut tous, et que vaut n'importe qui.
Vous comprenez, quand je dis tout un homme, fait de tous les hommes, ça vaut pour moi comme pour tous, et ça signifie par conséquent une telle communauté en profondeur entre les gens, que vraiment, ce qui les sépare, c'est du différentiel. Autrement dit, je trouve que il vaut mieux essayer de réaliser en soi, dans son aspect radical, la condition humaine, autant qu'on le peut, que de s'accrocher à une mince différence spécifique, que nous appellerons par exemple le talent, qui est un crime contre soi-même et contre les autres, parce que c'est s'attacher uniquement à ce qui sépare. En vérité, quand je dis que je suis n'importe qui, je veux dire les différences qui font l'objet de vanité, de recherche et d'ambition sont si minces qu'il faut vraiment être très modeste pour les rechercher. Autrement dit, je suis complètement d'accord avec un des idéaux de Marx qui veut que lorsque un bouleversement de la société aura supprimé la division du travail, il n'y aura plus d'écrivains d'un côté, attachés à leur petite particularité d'écrivain, à leur petit talent d'écrivain, et puis de l'autre, des mineurs des ingénieurs, mais qu'il y aura des hommes qui écrivent, et qui par ailleurs font autre chose, mais qui écrivent en ce moment. Parce que l'activité d'écrire est une activité absolument liée à la condition humaine, c'est l'usage du langage pour fixer la vie, c'est donc une chose essentielle. Mais elle ne doit précisément pas pour ça être confiée à des spécialistes.
Sartre connaissait Schubert comme sa poche. Il le lisait dans le texte et le déchiffrait à vue d'œil. Merci Jean-François Louette d'être venu nous parler de Sartre, d'être venu nous parler des mots, les mots et autres écrits autobiographiques. Ça vient de paraître, c'est un pavé de plus, mais c'est un pavé absolument nécessaire. C'est un très très beau travail qui existe donc désormais, de nouveau d'une certaine manière, dans la collection de la Pléiade. Je signale également, donc, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, le commentaire de Claude Burgelin, le commentaire des mots de Sartre.